Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour sa seconde et dernière émission du mois de novembre, en attendant évidemment celle du mois de décembre.
Oui, parce que quand tu dis dernière, ça fait peur.
Dernière du mois. Mais nous ne sommes pas encore au dernier mois de l'année, donc voilà. Et donc vous venez d'entendre Edith, qui
bonsoir.
Va partager l'émission avec nous, et également il y a Dominique qui est revenu avec nous ce soir.
Bonsoir. Voilà,
on lui souhaite effectivement le bonsoir. Alors, comme depuis des années sur l'antenne de Principe Actif, une heure consacrée à la promotion et à la défense des droits humains, comme d'habitude, beaucoup de sujets ce soir. Donc on va vous parler de la répression des défenseurs de l'environnement, plus spécifiquement en Grande-Bretagne. Et oui, ce n'est pas dans un pays d'Amérique latine ou dans un pays d'Asie, mais en Grande-Bretagne. Et ça fait référence, bien sûr, à ce qui vient de se décider, ou pour être plus précis, ce qui vient de ne pas être décidé à la dernière COP, qui, encore une fois, a accouché d'une souris, pour la défense du climat et pour la justice climatique. Tiens donc, c'est surprenant. Mais bon, on vous en reparlera aussi tout à l'heure. On va aborder un sujet, c'est Dominique qui va le faire, sur l'état des prisons en France. Je pense que c'est la première fois, je suis même quasiment sûr que c'est la première fois qu'on en parle sur l'antenne de Principe Actif. Et c'est un sujet très important. Voilà, on va vous parler d'une bonne nouvelle aussi qu'on a apprise récemment. Si on a le temps, on vous parlera aussi d'un salon sur les armes. C'est une spécialité française qui a lieu tous les ans. Le salon Millipol, je crois, il s'appelle.
Ah non,
quelque chose comme ça.
Comme ça. Oui.
Voilà. Où il y a plein de marchands d'armes qui viennent exposer à l'invitation des autorités françaises. Eh oui. Et donc, et puis aussi beaucoup d'infos locales, donc surtout ne quittez pas l'antenne pour les 10 dernières minutes de l'émission, parce que ce soir on a beaucoup d'infos locales à vous donner, et ça aussi c'est très important pour nous retrouver et pour participer à ce qu'on fait.
On peut peut-être dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la journée.
C'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes.
Et voilà. On a entendu combien de femmes décédées depuis le début?
149.
149,
oui.
Voilà, terrible.
Bah, moi, j'ai entendu ce midi, c'était sur France Culture aux infos. Il y avait donc une spécialiste du sujet des violences faites aux femmes qui était interviewée et qui expliquait très clairement que, alors que c'est une grande cause nationale depuis les années 2018 ou 2019 de l'actuel gouvernement, s'il y avait eu beaucoup, beaucoup de déclarations de fait et quelques lois de voter qui allaient dans le bon sens, ça n'avait pas changé grand-chose parce que, très bizarrement, au niveau du déblocage des finances nécessaires pour les mettre en place, il n'y a rien. Donc il y a eu beaucoup de verbiage. En gros, il y a eu beaucoup de verbiage, disait-elle, mais très peu d'avancées concrètes.
Et que nous sommes très en retard par rapport à l'Espagne et l'Italie.
C'est ça, tout à fait. Donc on y pense, c'est une thématique, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans les émissions d'Amnesty sur l'antenne de Principe Actif, mais on en reparlera bien évidemment.
Enfin, une pensée. Voilà.
Donc pour commencer l'émission, puisqu'on vous parlait aussi de ventes d'armes, ça ne concerne pas tout à fait les ventes d'armes faites par la France, ou les salons organisés par la France, mais ça concerne quand même la France, et ça concerne la surveillance sur Internet, et ça se passe au Pakistan. Alors voilà pourquoi. C'est un petit article tiré de la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. Abonnez-vous. Vous avez la page d'abonnement sur le site amnesty.fr. Donc, au Pakistan, les services de renseignement peuvent lire et analyser chaque appel, message ou recherche sur Internet. Le pays s'est doté d'un arsenal numérique tentaculaire pour contrôler l'espace public, alors que le gouvernement de Shehbaz Sharif renforce depuis 2024 les pressions sur les journalistes, les militants, l'opposition politique et les minorités religieuses. Le dispositif de surveillance repose sur deux systèmes. Un pare-feu national capable de suspendre ou de restreindre l'accès à Internet, qui s'appelle le WMS 2.0, et le Lawful Intercept Management System, ou LIMS, qui intercepte les communications des habitants. Des tours de guet espionnent en permanence la vie des citoyens ordinaires, dénonce Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International. L'autorité pakistanaise des télécommunications impose l'installation du LIMS dans toutes les sociétés privées et sur tous les réseaux. Une enquête d'Amnesty International révèle que des entreprises en France, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, en Chine, au Canada et aux États-Unis alimentent cette surveillance de masse. Exemple, la société américaine Niagara Networks et l'entreprise française Thales fournissent les composants et logiciels qui font fonctionner le pare-feu. Le LIMS repose sur des techniques de l'entreprise allemande Ultimaco, acheminée par le biais d'une société émiratie. Donc voilà, tous ces pays-là se donnent la main pour participer à la surveillance de la population pakistanaise. Cet espionnage de masse laisse planer un soupçon permanent sur les citoyens et les contraint à l'autocensure. Des journalistes affirment avoir subi des tentatives de piratage de leur messagerie ou des menaces après des articles critiques envers le gouvernement. Tous témoignent sous couvert d'anonymat. Pour Amnesty, bien sûr, qui vient de publier un rapport sur la question. J'ai jeté un coup d'œil sur le rapport, mais pour l'instant, il a été publié qu'en anglais. Voilà. Donc, on n'est pas fiers que la France, effectivement, via Thales, participe à cette opération de surveillance et donc de répression, directe ou indirecte, par rapport à la société civile pakistanaise. Voilà. Et c'est encore une fois une info que vous avez très peu de chances d'entendre ou de voir sur les médias, sur la télévision, les chaînes d'infos continues ou les radios mainstream, comme on dit. Alors, puisqu'on parlait de la France, on va rester en France, mais là, c'est Dominique qui va vous parler des prisons.
Bien, donc, c'est un article qui est tiré aussi de la chronique. Et c'est un entretien avec Dominique Simoneau. Cet entretien a eu lieu avant la démission du gouvernement d'octobre 2025. Dominique Simoneau a été conseillère d'insertion et de probation de 1979 à 1991. Elle a été journaliste à Libération, où elle a créé une chronique judiciaire, puis au Canard enchaîné. Et depuis octobre 2020, elle est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Donc, on lui a demandé d'abord. En janvier 2020, la France a été sommée par la Cour européenne des droits de l'homme de remédier aux conditions indignes de ses prisons. La situation s'est-elle améliorée ? Dominique Simoneau répond : non, elle est pire. La surpopulation carcérale a battu un nouveau record en juillet, avec 85 000 détenus pour 62 500 places. Aujourd'hui, en moyenne, une prison prévue pour 100 personnes en contient 150, certaines 200, d'autres même 300. Au passage, 26% des détenus sont en attente de jugement. Même si les femmes ne sont que 3,6%, comme on a peu d'établissements pour elles, elles sont aussi entassées. En quelques années, la durée moyenne des peines prononcées est passée de 8 mois à 11 mois et demi. C'est un des effets pervers de la révision de l'échelle des peines correctionnelles par la loi de mars 2019. Les peines de 6 mois ou moins doivent s'effectuer en théorie en dehors de la prison. Et pour contourner cette règle, les magistrats ont pris l'habitude de prononcer des peines légèrement plus longues, souvent fixées à 8 mois. De la même façon, puisque la loi interdit aujourd'hui de condamner à moins d'un mois de détention, les juges s'ajustent en prononçant 32 jours. Les comparutions immédiates sont aussi de grandes pourvoyeuses de détention. Mais surtout, il y a un emballement judiciaire sous l'influence d'un discours sécuritaire, politique et médiatique qui contamine les esprits et crée une demande de répression. La loi française impose la cellule individuelle depuis 1875, mais un moratoire en reporte périodiquement l'application. Donc, il y a 2 détenus, voire 3 par cellule. Plus de 5 000 prisonniers dorment ainsi sur un matelas posé au sol. Chacun dispose d'à peine d'un mètre carré, sans intimité, même pour les toilettes. Certains détenus mangent de moins en moins, pour ne pas évacuer, et souffrent de problèmes intestinaux horribles. Quelques-uns refusent même la promenade afin de profiter d'un moment de tranquillité. Dans les établissements, pour la plupart vétustes, les réseaux d'électricité, d'eau et de chauffage tombent en panne. Les fenêtres ne sont pas étanches. Dans les cellules humides, punaises, cafards et rats grouillent partout. Il manque 6000 surveillants, faute d'argent pour accompagner les malades. De 30 à 40% des rendez-vous médicaux sont annulés dans les maisons d'arrêt. Au lieu de deux promenades par jour, il n'y en a plus qu'une, qui est juste un peu rallongée. Les détenus restent donc en cellule de 20 à 23 heures par jour. En principe, le détenu devrait consacrer plusieurs heures à des activités, en particulier au travail, pour prouver ses efforts de réinsertion. Mais c'est un privilège inaccessible. En France, seuls 25% peuvent travailler. En Allemagne, ils sont 70%. La loi exige pourtant que la prison prépare les détenus à leur sortie. Mais cette mission essentielle est complètement oubliée au profit d'une vengeance d'État. Dans ces conditions, la prison ne peut que fabriquer de la récidive.
Ah, j'ai perdu ma page. On tourne la page.
Aujourd'hui, la violence atteint un niveau alarmant, que ce soit entre détenus contre les surveillants, mais aussi les surveillants sur les détenus. Je ne parle pas de toutes les drogues qui circulent comme à l'extérieur. Mais sans la drogue, les prisons exploseraient. D'ailleurs, les saisies par l'administration sont prudentes et parcimonieuses. Un détenu sur trois souffre de troubles psychiatriques. Les examens avant déferment en comparution immédiate, censés vérifier l'aptitude à l'incarcération, sont expédiés en 5 ou 10 minutes. Or, certains détenus peuvent être dangereux. 5 ont été tués par leurs co-détenus durant ces derniers mois, dont un alertait l'administration qu'il était menacé. Il a été égorgé avec une tasse cassée. Dans les établissements pénitentiaires, le taux de suicide est 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc on lui a demandé s'il fallait construire davantage de prisons. La réponse immobilière est une fuite en avant. En 2017, Emmanuel Macron s'est engagé à créer 15 000 places d'ici à 2027. D'abord, c'est irréaliste, les délais de construction sont très longs, et à ce jour, il n'y a encore que 3 000 places supplémentaires. Ensuite, les nouveaux établissements sont immédiatement surpeuplés. De plus, c'est un gouffre financier au détriment de la réhabilitation des établissements et surtout des budgets consacrés à la réinsertion ainsi qu'à l'accompagnement social. Ce sont les parents pauvres de la politique pénale. Il manque 1000 conseillers d'insertion et de probation chargés de préparer la sortie des détenus et de les accompagner après leur libération. La solution n'est pas de construire plus de prisons, mais de repenser la place de l'emprisonnement dans le système pénal, de développer les alternatives à la détention orientées vers l'insertion sociale. Les alternatives sont le placement extérieur, par exemple. Vous travaillez quelque part et le soir, vous rentrez dans un endroit désigné par le juge sous peine d'être considéré comme évadé. Mais les juges n'y recourent pas beaucoup et l'État n'y consacre pas les moyens financiers nécessaires. Les centres de semi-liberté où les détenus ne passent que la nuit restent pour la plupart à moitié vides. Des détenus condamnés à de la prison ferme y sont incarcérés, alors que ces centres ne sont pas du tout conçus pour ça. Il y a encore le travail d'intérêt général. Malheureusement, les magistrats ne sont pas convaincus de leur effet dissuasif et y recourent de moins en moins. Tous ces dispositifs sont prometteurs, mais ils ne sont pas assez utilisés parce que les politiques ont peur de paraître laxistes et parce qu'on n'est pas sûr de leur efficacité en matière de réinsertion. Madame Simonneau dit encore « Je plaide pour que la régulation carcérale soit inscrite dans la loi ». Il s'agit d'une libération encadrée par les services pénitentiaires accordée aux détenus un peu avant la fin de leur peine. Cela permettrait de retirer 7000 détenus des prisons. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, donc c'était avant la dissolution, clame « Je ne serai pas le ministre de la Régulation, mais dans la pratique, les instructions qu'il donne pour vider les prisons reviennent aux mêmes. Les idées qu'il propose sur le développement des alternatives à la détention ne sont pas si éloignées des nôtres. En juillet, il déclarait qu'il faudrait réserver l'incarcération aux gens dangereux, coupables, notamment d'atteinte aux personnes. Mais il serait plus crédible s'il changeait la loi au lieu de créer tous les quatre matins de nouvelles infractions sanctionnées de peine de prison. Donc, que faudrait-il pour mettre en œuvre toutes ces solutions ? Du courage politique. Les responsables politiques sont conscients du problème, mais ils ont peur de la sanction électorale. Ce que je reproche au gouvernement, c'est l'absence de vision d'une politique carcérale cohérente. Le garde des Sceaux préfère lancer des polémiques sur les activités ludiques en prison ou annuler sa visite à la maison d'arrêt de Nîmes parce qu'il y a une table de massage, alors que la situation est dramatique. L'approche de l'élection présidentielle de 2027 est malheureusement propre à cette démagogie sécuritaire. J'incite les associations comme l'Observatoire international des prisons, les associations de détenus, de défense des détenus, d'avocats pénalistes,
reprends ta respiration.
Et même les barreaux à se saisir de nos rapports pour porter plainte contre l'État. Avec collectif, je suis désolée.
C'est pas grave, c'est pas grave.
La prison, c'est un sujet trop dur, tu as raison.
Avec un collectif d'une trentaine d'organisations, nous avons été auditionnés le 2 juillet dernier par l'Assemblée nationale. Je vais proposer une loi. Je ne me fais pas d'illusions, mais
nos idées
commencent à infuser.
Voilà, Dominique est arrivée au bout de l'article qu'elle voulait vous lire. Merci à elle.
Bah, c'est très instructif, parce que c'est vrai que moi, je ne l'avais pas encore lu dans la chronique. Et se dire comment on marche sur la tête aussi pour... ne pas considérer les gens enfermés comme des gens qui ont des besoins. Alors, on parle de la psychiatrie, ça, c'est terrible quand on sait le nombre de personnes qui ont des troubles psychiques ou psychiatriques et qui sont absolument pas suivies parce que pour la population de la France, il manque énormément de professionnels et encore plus en prison. Et quand on voit que, bon, alors moi, ça, une table de massage, ben non, mais les gens qui sont dans des situations de délinquance, ils ont besoin aussi de se réapproprier leur corps et de comprendre un peu pourquoi ils en sont arrivés là. Enfin, le tout répressif qu'ils connaissent, quoi. Je veux dire, c'est vraiment marcher sur la tête, quoi. Voilà.
Et alors, juste pour une petite rectification dans ce que vient de vous dire Dominique, enfin c'est pas bien méchant, mais tu disais que Darmanin c'était le ministre du précédent gouvernement, mais il était renommé dans le gouvernement actuel. Il est toujours ministre de la justice.
C'est
vrai qu'il y a tellement de changements de gouvernement qu'en général, comme il dure quelques mois,
il n'est pas dans le même gouvernement,
ça devient compliqué à suivre. Et donc moi ça m'a rappelé, j'ai lu récemment un bouquin où il parlait de sur ce sujet, enfin qui ne traitait pas que de ce sujet-là, mais qui citait effectivement des méthodes qui sont suivies, c'était en Norvège, qui sont suivies en Norvège par rapport aux prisons. Et il y a une prison où qui existe, hein, à côté d'Oslo, dans une forêt, qui est entourée de forêts, et qui donc où sont incarcérés des gens qui ont été condamnés pour des atteintes aux personnes, hein, voire des crimes, donc des condamnés entre guillemets graves. Et en fait, dans cette prison, ça fait plusieurs années qu'elle existe, les prisonniers sont enfermés sans lettres, parce qu'ils partagent leur repas collectivement, même avec les gardiens de la prison. Ils ont accès à des salles de sport, à des salles de lecture. Ils ont accès à la forêt qui entoure la prison. Alors bien sûr, la forêt est elle-même entourée de grillages, pour pas qu'ils puissent effectivement s'échapper.
Ils sont pas que dans...
Voilà, mais ils ont accès à un environnement naturel. Effectivement, oui, on va passer à la pause musicale.
Non,
mais Et donc, dans ce bouquin, dans cet article qui racontait ça, alors quand ça a été lancé, même en Norvège, les gens ont beaucoup critiqué en disant « Bon, ça va nous coûter très cher », alors que ce sont effectivement des arguments qu'on entend chez nous. « Ça va nous coûter très cher », alors que ce sont des reprises de justice, des criminels, enfin, etc. Donc, c'est pas normal. Et puis, de toute façon, ces gens-là, quand ils vont sortir, eh ben, ils n'auront qu'une envie, c'est de recommencer. Et c'est exactement l'inverse. En fait, la situation des prisons telle que vient de vous la décrire Dominique et qui est tout à fait exacte, ça engendre des délinquants principalement. Le taux de récidive pour les gens qui sortent de prison en France est absolument affolant. Donc ça ne réinsère quasiment personne. Par contre, dans ces essais faits en Norvège, il y a beaucoup moins de récidives. Qui dit beaucoup moins de récidives, il y a beaucoup moins de condamnations et de poursuites judiciaires pour des gens qui ont accompli leur première peine. Donc, sur le long terme, cette prison qui coûte plus cher de façon immédiate pour les prisonniers coûte moins cher à la société à long terme parce qu'elle engendre moins de récidives, moins de répression, moins de jugement et moins de justice. Voilà. Donc c'est un exemple, mais encore une fois, effectivement, comme tu disais, ce qui est important dans cet article, ce qu'il conclut très bien, c'est que de toute façon, pour ça, il faut du courage politique. Et tant qu'on pensera que la prison hautement répressive, hautement inhumaine...
Didier, je peux permettre, on ne pensera pas, on essaye de nous faire penser que...
C'est ça.
Voilà,
c'est ça. Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, tout à fait. Fais bien de m'en prendre, c'est ce que je voulais dire, mais c'était mal dit. Tant qu'on imaginera que les politiques nous feront imaginer que c'est la seule solution, c'est tout sauf une solution. Bien sûr qu'il faut arrêter les criminels, bien sûr qu'il faut les juger, et les voleurs, et les gens qui commettent des délits graves.
Bah, la loi existe pour ça.
Bien évidemment, tout le monde doit respecter la loi.
Quand on parle, effectivement, qu'on va condamner les gens à 32 jours pour pouvoir les mettre en prison, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi si la peine, c'est un mois? On peut penser à un accompagnement.
Il y a des chances que quelqu'un qui est condamné à 32 jours de prison, qui a donc logiquement commis un petit délit, de grandes chances qu'il en ressorte préparer à en commettre un bien plus grave.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça la réalité. Donc on va s'interrompre là tout de suite.
Allez,
on va passer
musique.
À la première pause musicale. On se retrouve juste après.
Mais on va s'en sortir. Un jour. Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller. Ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les bailleurs, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la PAC de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coque aux arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse aux sorcières, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds. On se qu'on y plonge des petits africains de 7 ans. Au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone à 1000 boules. Putain, et on va s'en sortir. On va consommer que l'énergie dont on aurait besoin et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des œuvres pour ceux qui en ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins des rues, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. Ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueuler comme des harengs derrière nos putains d'écrans, on laisse tous ces tarés continuer à diriger et à tout massacrer. Alors viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité.
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission, pour et la promotion et la défense des droits humains. On vient d'entendre une chanson que j'ai découverte aujourd'hui en préparant l'émission. Elle est chantée par Hélène Piris, dont je ne l'ai jamais entendu parler, et ça s'appelle « Non, mais on va s'en sortir ».« Non, mais on va s'en sortir », voilà. La vidéo, si vous avez l'occasion, elle est sur YouTube. Elle est très rigolote, d'ailleurs, effectivement. Et ça parle de sujets dont on vous parle, effectivement, à longueur d'émission, sur les atteintes à nos droits et la façon, comme elle dit à la fin, on se bouge le cul pour s'en sortir. Voilà. Autre sujet, c'est la répression des défenseurs de l'environnement. C'est Edith qui va vous en parler.
Oui, parce que la dernière chronique, alors... Je vous montre par la radio la page. La couverture, c'est climat carcéral. Donc, ça nous a fait sourire avec Dominique quand elle a dit qu'elle parlait des prisons. Bah, je lui ai dit, écoute-moi, oui, mais ça sera pour le climat. Alors, on ne va pas enfermer le climat, mais on va un peu essayer de voir qu'est-ce qui se passe actuellement pour les défenseurs de l'environnement. Alors, vous savez que partout dans le monde, Didier en parlait tout à l'heure, défendre le climat peut coûter très cher. Aux Philippines, au Mexique, en Colombie, des militants écologiques tombent sous les coups des groupes armés dans des exécutions extrajudiciaires ou meurent en prison. Et ces dernières années, en moyenne, une personne est tuée tous les deux jours. Alors, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Eh bien, en Europe, on ne tue pas, mais on punit. Le journaliste Mathieu Martinière a enquêté au Royaume-Uni où les juges envoient en prison des militants non violents pour un blocage routier, une banderole, un slogan. Il raconte comment la désobéissance écologique est devenue un crime et comment certains lobbies industriels liés au secteur de l'énergie poussent la justice à museler la contestation. En France, Didier vous en parlera juste après cet article, la police nasse, matraque, embarque. L'État durcit les lois, surveille, fiche et infiltre. Résultat, la France détient le record européen des violences policières contre les défenseurs de l'environnement. Alors donc cet article, il est très bien fait. Je vais vous résumer, vous faire quelques petits exemples simplement et vous expliquer comment l'Angleterre est devenue ce pays avec ses lois tellement liberticides par rapport aux défenseurs de l'environnement. Donc un exemple, je vais vous parler de Marcus Dekker. Marcus, c'est un professeur de musique de 36 ans. Le journaliste l'a rencontré en juin, un mois de juin où il faisait très beau en Angleterre, plus de 30 degrés, et où la BBC diffusait des messages de prévention. Alors, il est en short et difficile de ne pas apercevoir son bracelet électronique fixé sur sa cheville depuis sa sortie de prison en février 2024. Car après 490 jours de détention, Marcus Dekker est en liberté conditionnelle. Alors il explique, ce bracelet ne s'enlève pas, il est étanche. Je dois le recharger tous les jours, ce qui m'oblige à rester assis près d'une prison pendant près de 2 heures. Il est en couple avec Holly Cullen-Davies, musicienne et mère de leurs 2 enfants. Marcus Dekker est de nationalité allemande et il est aujourd'hui menacé par l'Angleterre d'expulsion. Mais quel crime horrible a-t-il bien pu commettre? Eh bien, une action pacifique pour le climat au Royaume-Uni. Alors, un petit retour en arrière. En octobre 2022, Marcus, cordiste expérimenté, et son ami Morgan Trolland, ingénieur spécialisé dans la construction de ponts, planifient minutieusement leur action. Un peu avant 4 heures du matin, dans la nuit du 17, ils grimpent sur le pont Queen Elizabeth II, qui enjambe la Tamise à l'est de Londres. La structure impressionnante surplombe une autoroute à 4 voies où passent environ 160 000 véhicules par jour. Équipé en matériel d'escalade, il se hisse à 60 mètres sur l'un des piliers du pont, puis déploie une banderole. Just stop oil. Arrêtez simplement le pétrole. Les deux hommes restent 37 heures dans les airs avant que la police vienne les déloger. Leur action bloque la circulation, provoquant d'importants embouteillages. L'opération et les images très médiatisées marquent les esprits. Alors, en avril 2023, la sentence tombe le tribunal les condamne pour nuisance publique. Vous devez être puni pour le chaos que vous avez causé, pour dissuader les autres de vous copier, dit le juge. Verdict. 2 ans et 7 mois de prison pour Marcus, 3 ans pour Morgane. Du jamais vu outre-Manche pour les manifestations en faveur du climat. Alors, il y a d'autres exemples, mais je vais un peu aller avancer pour expliquer comment l'Angleterre en est arrivée là. Alors, c'est pareil, je tourne une page. Donc, l'origine de cette hostilité aux militants de l'environnement outre-Manche. Voilà. On se remet en juillet 2019. En quelques mois, le mouvement Extinction Rébellion, né à Londres, a essaimé ses actions médiatiques pour le climat, bloquant des ponts ou des sites emblématiques de la cathédrale, comme la place d'Oxford Circus. Alors en réponse, un think tank conservateur influent publie un rapport sévère. Alors il s'appelle Policy Exchange, si, voilà, je le note quand même. Donc le rapport, c'est Extremis Rébellion. La publication s'alarme que les activistes pacifiques pourraient basculer vers le terrorisme et appelle à l'édiction de lois plus strictes à leur égard. Ce rapport va servir de socle théorique pour différents gouvernements conservateurs qui vont se suivre après 2019 et donner naissance à 2 textes législatifs, la Police Crime Sentencing and Court Act en 2022 et Public Order Act en 2027. Donc ces 2 lois donnent des pouvoirs complètement nouveaux par rapport à l'Angleterre, c'est-à-dire qu'on peut considérer que, par exemple, si on se trouve sur une route, eh bien, on peut considérer que c'est un mobilier urbain national et on peut être accusé de se promener sur la route. Donc c'est vraiment des choses assez terribles. Et ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que ces lois sont arrivées et il y a aussi toute les médias qui se mettent avec, des médias indépendants britanniques. On s'est rendu compte après qu'ils ont récupéré des dons des compagnies pétrolières. Ce sont des détracteurs, des activistes climatiques. Il y a aussi le multimillionnaire Paul Marshall, qui lui, il a une chaîne de télé, GB News. Il est climato-sceptique, bien entendu, et ses journalistes se montrent très critiques envers Extinction Rebellion ou Just Stop Oil, l'association, l'ONG dont faisait partie Marcus, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une tempête orchestré par les médias populistes de droite, 2 gouvernements autoritaires, un think tank financé par l'industrie du pétrole. Les forces de droite se sont mobilisées pour encourager la répression des militants non violents, qui ne sont pourtant clairement pas des terroristes ou des organisations criminelles. La rhétorique employée par certains médias conservateurs britanniques, ainsi que des hommes et des femmes de pouvoir politique, actuellement au pouvoir, est qualifié comme toxique. Donc le défenseur des droits aux Nations Unies, Michel Force, le dit aussi lui-même, parce qu'il est allé plusieurs fois en Angleterre pour surveiller un peu ce qui se passait par rapport aux défenseurs de l'environnement, sans succès, malheureusement. Alors on peut aussi noter que en Angleterre, on est éco-fanatique. Hein, et ben, qu'en France, on est
éco-terroriste.
Éco-terroriste. C'est les mêmes façons de changer le vocabulaire. Donc, juste pour vous dire un peu ce qui peut se passer donc, avec ces lois, parce que c'est vraiment quand même assez, moi, quand j'ai lu ça, on ne peut pas, c'est-à-dire que s'il y a des défenseurs de l'environnement qui sont devant un tribunal, le tribunal interdit d'évoquer le climat. Ouais. Certains juges interdisent d'évoquer le réchauffement climatique pendant les procès. Alors, il y a un pauvre monsieur, David Nixon, 39 ans, en est un témoin. Ce militant d'Insulate Britain, un mouvement qui demande la rénovation énergétique de tous les logements sociaux d'ici 2025, à mon avis, il n'a pas réussi, et de tous les logements privatifs de d'ici 2030 a été condamné en 2023 à 8 semaines de prison pour outrage à la cour, son crime de lèse-majesté, avoir refusé de se soumettre à l'interdiction du tribunal de parler du climat. Dans ma déclaration finale, j'ai dit au juge que j'allais le faire de toute manière, cela me semblait juste. Ne pas le faire aurait été pour moi un déni formel. Ben oui, quand on veut une rénovation énergétique, ne pas parler du climat, comment faire ?
Ben oui,
c'est quand même...
On frise de, comment dire, c'est kafkaïen, comme on
ben,
dit.
Voilà, mais la loi, c'est la loi,
tout à fait. Didier,
on ne peut pas changer. Alors il y a aussi, quand même aussi, un autre exemple, là, qui, une assistante sociale... Trudy Warner, qui s'est mis devant, au moment d'un jugement devant un tribunal avec ce message: jurez, vous avez le droit absolu d'acquitter un accusé selon votre conscience. Eh bien, elle sera poursuivie pour outrage à un magistrat avant d'être acquittée un an plus tard. Mais entre-temps, elle déclenche la naissance d'un mouvement Defend Our Juries, défendre nos jurys. Et dans tout le pays, il y a des citoyens qui se sont pris en photo avec le message de Trudy Warner. Donc, il y a aussi quand même des réponses qui existent. Donc, bon, je ne vais pas vous ramener d'autres exemples, mais c'est vraiment...
Non, c'est vrai que moi, j'ai lu ce dossier aussi, et c'est absolument... ça parle de soi, quoi. C'est absolument hallucinant, effectivement.
Mais ce qu'ils ont quand même réussi...
C'est pour les faire taire, c'est pour faire taire les défenseurs du climat.
Ils ont quand même réussi... La question du dérèglement climatique a perdu en visibilité dans les médias. Marcus dit bah, « je ne peux pas répéter ce que j'ai fait car je risquerais de nouveau être arrêté ». Les associations ont perdu énormément de membres. L'association dont il faisait partie, c'était Stop Oil. Ils ont eu 3300 arrestations et 180 personnes qui ont été arrêtées. Donc cette association, on va dire qu'elle s'est dissoute, mais le 26 avril dernier, ils se sont arrêtés devant le palais de Westminster et le siège de la compagnie pétrolière Shell. C'est un choix. L'organisation a mis fin à sa campagne d'action. Elle se consacre désormais à la défense de ses membres dans les tribunaux.
Oui, c'est ça.
Officiellement, Just Stop Oil assure avoir remporté son pari. Le nouveau ministre travailliste, alors c'est pareil, les Anglais, ils ont un peu changé de ministre. Je ne sais plus si c'est celui qui est actuellement en charge, Keith Starmer.
Oui, c'est lui.
Si, c'est bon.
Oui, c'est lui, c'est un travailliste, oui.
Voilà. A en effet fait la promesse électorale au printemps, leur promesse, hein, faut surveiller, 2023, de ne plus accorder de nouvelles licences pétrolières et gazières dans le pays, l'objectif affiché du mouvement. Voilà où on en est, donc, aux États-Unis, en Angleterre.
Aux États-Unis.
On est, non, mais non. C'est impressionnant. Les militants.
C'est vrai que les États-Unis de Trump répriment aussi.
Des prisonniers politiques qui sont des militants pour le climat.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et il y a toujours une chose qui est oubliée, puis après, je vais vous dire quelques mots, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs pages.
Mais c'est bien aussi de
mais
dire
sur
en France,
ce qui se passe en France, effectivement,
parce que
sur la répression, là aussi.
C'est en symétrie de cet article.
Et donc, ce qu'oublie toujours de dire ces juges qui condamnent, effectivement, et qui disent vous n'avez pas à mettre d'opinion sur le changement climatique, etc., mais sur vos actes, c'est que le changement climatique, quelle que soit la décision des juges, quelle que soit la décision des gouvernements, etc., etc., il continuera. Il va continuer à remettre de plus
en cause
de droits fondamentaux.
Ça, on en est tous persuadés, Didier, donc, mais se dire qu'on peut limiter la liberté des gens qui veulent simplement dire à tout le monde « attention, on ne pourra pas mettre le réchauffement climatique sous le tapis, ça,
non, mais
on en est sûr ».
C'est clair, ça s'appelle la politique de l'autruche, mais ça, c'est suicidaire hein, de continuer comme ça, dans tous les sens du terme. Et de toute façon, effectivement, la responsabilité de tous ces gens qui condamnent vis-à-vis des générations qui nous suivent sera énorme. Ça, c'est
alors clair. En France, parce que c'est pas non plus top, vas-y.
Oui, alors en France, mais alors je vais vous lire que le début. Donc la répression en France, bon, la police réprime les défenseurs de l'environnement plus violemment encore qu'au Royaume-Uni.
Voilà, c'est la différence, petite
2016-2018,
différence.
2016-2018, à Bure, dans la Meuse, l'État harcèle les opposants à l'enfouissement de déchets radioactifs avec l'arsenal antiterroriste. 85 000 écoutes, perquisitions, balises GPS, valises espions, plus d'un million d'euros dépensés. Juin 2019, à Paris, la police gaze à bout portant des militants pacifiques d'Extinction Rébellion, XR, sans dialogue préalable. Septembre 2019, Paris, la police gaze massivement et nasse, de manière illégale, la marche climat. Novembre 2022, Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône, la police antiterroriste enquête sur les manifestants ayant occupé et dégradé l'usine Lafarge. Février-mars 2023, Sainte-Soline, que tout le monde connaît dans les Deux-Sèvres, les tirs massifs de LBD, grenades et gaz lacrymogènes blessent 260 opposants aux méga-bassines, dont 40 grièvement. Juste un petit, on vous l'avait dit la dernière fois, mais un petit rappel, allez voir la vidéo sur le site de Mediapart, ouais. Voilà, ou la chaîne YouTube de Mediapart, elle est en accès libre, allez voir la vidéo des gendarmes qui se sont filmés eux-mêmes et voir à quel point leurs propos sont des propos de délinquants. C'est absolument hallucinant, y compris des appels au meurtre par des gens qui sont censés faire respecter la loi. Oui, non, je continue. Et en France, donc la police réprime les défenseurs de l'environnement, pire qu'au Royaume-Uni, comme on vous l'a dit. Mars 2023, j'ai encore vous lire celle-là, puis je vais m'arrêter là. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avant toujours qu'il soit même ministre de la Justice, il était à l'Intérieur, hein. On change de poste, dissout les soulèvements de la Terre.
Annulé par le Conseil d'État.
C'est ça. En mars 2024, à
C'est l'A69.
Les gendarmes privent de nourriture, d'eau, de sommeil les opposants à l'A69 perchés dans les arbres.
Les écureuils.
Ils les insultent, puis tirent des grenades et frappent les ravitailleurs le 18 mars.
En risque de les faire tomber des arbres.
C'est ça.
Allez, moi je termine sur juin 2025 parce que c'est pas loin d'ici.
Vas-y.
Le Havre. La police arrête deux femmes pour une banderole. Stop aux croisières. Les gardent 16 heures et les convoquent au tribunal en mai 2026, à suivre. Donc, les Anglais, c'est pas terrible du tout, mais la France...
On est pas mal. Encore une fois, le but, c'est de dissuader les gens de manifester, de dissuader les gens de lutter pour la défense de l'environnement et contre le réchauffement climatique. Mais de toute façon, c'est peine perdue parce que le réchauffement climatique continuera à être de plus en plus désastreux. Ça, de toute façon, les politiques, pas plus que les juges, ne l'empêcheront.
Ouais, voilà. Parce que les juges aussi, on peut rajouter juste en janvier 2025, le Parlement durcit les sanctions contre le blocage routier jusqu'à 2 ans de prison ferme. Voilà. Donc les lois aussi sont en train de devenir de plus en plus répressives.
Edith, voulez-vous dire, mais on va le faire, mais juste après la pause musicale, on va changer un petit peu notre ordre du jour. Après la pause musicale, Edith, voulez-vous parler de quelques mots sur une exposition.
Je vais le faire très rapidement, voilà. Après la pause.
Après la pause, on écoute tout de suite, on se retrouve juste après.
Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est un morceau un petit peu ancien, mais je trouvais qu'il allait très bien avec la thématique de l'émission. Ça s'appelle Respire, et c'était un chanteur qui s'appelle Mickey 3D. Voilà.
Donc, termine.
Oui, tu termines effectivement, voilà, par ton expo sur le même sujet.
Oui, parce que c'est dans la chronique de ce mois-ci, avec une exposition qui doit s'appeler. Enfin, Amnesty les appelle les déracinés du climat. Donc là, on parle aussi des personnes qui ont migration liée à la problématique de l'environnement. Donc elle a lieu Musée national de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée à Paris, du 17 octobre, mais jusqu'au 5 avril 2026. Donc on a le temps d'aller la voir. Il y a des rencontres, des projections, des ateliers, beaucoup d'œuvres, aussi bien une pointe de silex préhistorique, des sculptures, des photos comme celle de My Grandmother de Dorothea Lange. Ça, quand vous la verrez, on la reconnaît. Et quand ils ont fait cette exposition-là, ils ont été en collaboration avec des scientifiques du GIEC, des spécialistes des migrations environnementales, des biologistes marines. Il y a des témoignages aussi de personnes directement confrontées au bouleversement climatique du Vietnam à l'Arctique, du Sénégal au Soudan, des récits personnels qui donnent à voir les conséquences concrètes d'un règlement qui concerne toute l'humanité. Se dépasser en fonction du climat, c'est un comportement naturel du vivant, explique Elisabeth Jolie-Schimmels, co-commissaire de l'expo. Mais la crise climatique actuelle connaît une évolution extrêmement rapide. La question du déplacement devient critique. Car si les migrations liées à l'environnement ont toujours existé, le phénomène s'accélère de façon exponentielle. Alors, ce qu'elle rajoute aussi... En observant des clichés, bon, on comprend pourquoi le mot « réfugié climatique » s'est imposé dans un langage courant. Pourtant, aucun texte juridique ne le reconnaît. La Convention de Genève ne considère pas le climat comme un motif d'asile.
Mmh, tout à fait.
Les populations cherchent des solutions partout dans le monde, conclut Elisabeth Jolie-Schimmels. Maintenant, il faut une réponse collective. Il va falloir trouver des solutions ensemble. Donc, voilà. Voilà la suite.
Alors, par contre, malheureusement, les solutions, ce n'est pas la dernière COP qui va permettre d'être optimiste par rapport à ça.
Non, mais je pense que cette expo, elle m'a donné vraiment envie d'aller la voir et de se dire que la façon dont elle a été organisée est vraiment dans l'air du temps.
Tout à fait. Et donc, pour revenir effectivement à cette COP, c'est aussi un révélateur de ces autorités des différents États, à travers les différentes instances internationales, qui continuent à se mettre la tête dans le sable pour des raisons économiques, politiques.
Il y a vraiment, oui, effectivement, il n'y a pas de solution, mais il y avait hier, c'était... Alors, on était sur... J'étais sur Arte, sur 28 minutes, avec une réflexion qui était en disant, au moins, on en parle tous les ans. Bon, il y a plein de façons de voir les choses, mais effectivement, y a un lobbying pas possible. Et quand on voit comment les autochtones ont voulu aller plus au Brésil et comment la parole a été très peu écoutée, c'est surtout pour eux qu'on peut penser en premier, avec la déforestation. Alors effectivement, ils ont dit on va peut-être changer, mais il n'y a pas de date, il n'y a rien de concret derrière. C'est un peu comme les prisons, il y a plein de bonnes idées, plein de belles phrases, mais
puisque,
ça ne va pas.
Puisque tu parles d'Arte, ça me remet en mémoire un film que j'avais vu il y a au moins un an, je crois que c'était suite à la dernière COP de l'année dernière, je ne sais plus, mais qui faisait le point de façon... C'était un documentaire qui faisait le point de façon très, très intelligente et très détaillée sur le fait que les conséquences du changement climatique sont déjà, depuis plusieurs années, extrêmement meurtrières. Il y a plusieurs milliers de personnes qui meurent tous les ans, soit parce qu'ils suffoquent dans des champs, soit effectivement leur habitat n'est plus viable et ils en meurent parce qu'ils n'ont pas la possibilité pour aller ailleurs, ou ils meurent de crise cardiaque en coupant les cannes à sucre, enfin, etc. Et le changement climatique, c'est pas dans 20 ou 30 ans qu'il va commencer à détruire des vies, il a déjà commencé à détruire des vies, ça c'est clair. Donc voilà, c'est aussi par rapport à tout ce qu'on vous a dit sur les aberrations des instances politiques et des gouvernements qui veulent continuer à réprimer tous les gens qui s'occupent de ça, c'est absolument criminel. Voilà. Donc, on va... Juste une bonne nouvelle, on va passer du coquillage.
Ah oui, parce que moi, j'en ai parlé la dernière radio.
C'est ça. Edith, vous avez dit un petit mot sur un ressortissant français le beau-père. Le beau-père. Ah bon, d'accord.
Oui, il est franco...
Franco-chilien. Voilà. Je cherchais le nom du pays. Voilà. Donc, il est installé en Colombie. Mais effectivement, il avait besoin de passer la frontière du Venezuela pour renouveler un visa. C'était au début du mois de juillet dernier. Et depuis, on était sans nouvelles. On avait découvert, en fait, qu'il avait été emprisonné sans motif au Venezuela et qu'il était gardé au secret. Voilà. Il est donc victime de disparition forcée. Et donc, le 26 juin 2025, Camilo Castro, c'est son nom, envoie une note vocale à ses proches. Il annonce qu'il doit franchir la frontière vénézuélienne pour essayer de régler son problème de visa. « Je ne sais pas comment je vais régler ça », dit-il. Ce sera son dernier message. Donc, depuis, il était porté disparu. Bonne nouvelle, donc, le 17 novembre dernier, on a appris que Camilo Castro était libéré par les autorités vénézuéliennes. Il a pu prendre l'avion et rentrer à Paris, effectivement, ces jours derniers. Donc, l'amnistie qui s'était extrêmement mobilisée pour réclamer, dans un premier temps, d'avoir des nouvelles sur là où il était enfermé et pourquoi, et dans un deuxième temps, pour réclamer sa libération, puisqu'il était incarcéré sans aucun motif. On a gagné, effectivement, par rapport à ça. On s'est beaucoup mobilisé. Une des explications, on se mobilise beaucoup pour la libération de beaucoup de prisonniers d'opinion à travers le monde toute l'année. Hein. Mais un des éléments importants, c'est que sa mère de Camilo Castro est également militante d'Amnesty depuis 10 ans. Donc elle a alerté tous les groupes locaux et toutes les structures d'Amnesty qui l'ont aidé à se mobiliser. Voilà. Donc on est très content. Camilo Castro a été libéré et est maintenant en sûreté en France. Il n'est pas dit dans l'article s'il retournera, mais j'imagine que oui, vivre en Colombie. Puisqu'il,
sa vie est là-bas.
C'est ça. Ouais. Il y construit une maison, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Voilà. Donc on a obtenu, il a fait 4 mois de prison absolument pour rien, mais on a obtenu sa libération et tant mieux.
Et il est très... très, très touché, en souffrance pour tous les autres qui sont restés dans les prisons. J'ai vu son témoignage quand il est rentré là. Donc, pensez à tous ceux qui restent aussi là-bas.
Alors, information locale, donc on en a beaucoup. Notre prochaine émission, déjà sur l'antenne de Principe Actif, ce sera le mardi 16 décembre de 19h à 20h et toujours en direct sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle qu'on a des années et des années d'enregistrement d'émissions en podcast sur le site de la radio principeactif.net à la rubrique Amnesty International. Donc n'hésitez pas à les réécouter si le cœur vous en dit. C'est une très bonne, c'est un très bon moyen pour se passer son temps intelligemment. Deuxième actualité, toujours dans la semaine qui vient, c'est jeudi prochain, le jeudi 27, on sera présent au théâtre pour une pièce qui parle des discriminations qui s'appelle « Ma République et moi ». Donc c'est à 20h au théâtre jeudi prochain. On est partenaire, on aura une table de presse. Et je voulais vous dire quelques mots sur ce spectacle, ce sera rapide. Mais comment ça se présente? Donc l'acteur qui joue, il est seul en scène, dans un décor minimaliste, quelques objets familiers pour situer un chez-soi. Issam Rachid Arad, c'est son nom, prend la parole et s'adresse à sa mère, Malika, un tu affectueux et filial, un fils tendre et aimant qui parle et dit son amour à sa mère que l'on entend de temps en temps répondre. Issam, le comédien, qui signe aussi le texte et la mise en scène, n'a pas supporté l'agression verbale dont a été victime une mère de famille voilée lors d'une sortie scolaire prise à partie par un élu d'un conseil régional. Ça, c'est un fait divers réel, c'était il y a 2 ans, je crois. Et pour ne rien vous cacher, l'élu était bien sûr un élu du Rassemblement national. Cela a été le déclencheur de cette pièce. Issam, le Charentais, puisqu'il est né en Charente, a parfois souhaité une mère habillée normale, les cheveux raides, blonds, châtains, clairs à la rigueur, donc une mère bien française, entre guillemets. Malika, sa mère, réelle, arrivée du Maroc à 16 ans en France, est cuisinière dans un hôpital. Malika qui ne demande rien à personne et à qui pourtant on demande des comptes. Malika et ses réactions aux propos tenus par son fils. Voilà donc la thématique de cette pièce. C'est un one-man show, si on peut dire. Donc c'est à 20h au théâtre, organisé par nos amis du Tangram, bien sûr. Je vous rappelle le titre de la pièce, Ma République et moi. Et nous, on sera présents dans le hall du théâtre pour faire signer des pétitions et pour vous informer sur nos actions pour la défense des droits humains. Voilà. Toujours avec le Tangram, je vais y revenir après, mais le samedi 29, le samedi qui suit, donc c'est vraiment une période très mobilisée pour nous, on tient un stand de Changer leur histoire à Biocop de 9h30 à 18h. Changer leur histoire, ça s'appelait avant 10 jours pour signer. Je pense que les gens qui nous écoutent sont au courant.
C'est les
10
personnes pour qui on demande le maximum de signatures autour de la déclaration des droits humains.
Le 10 décembre, qui est la journée anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Effectivement. Donc on se mobilise de nouveau cette année pour 10 autres cas. Il y a beaucoup de cas qui sont des cas liés aux défenseurs de l'environnement, d'ailleurs une majorité. Hein. Donc ça fait lien aussi par rapport à tout ce qu'on vous a dit pendant l'émission. Donc on sera le samedi 29 de 9h30 à 18h au magasin Biocop, qui nous soutient effectivement aussi, pour faire signer des pétitions et discuter sur ces cas d'atteinte à l'environnement. Voilà. Ensuite, le jeudi 4 décembre, on sera de nouveau au théâtre, aussi partenaire pour un autre spectacle du Tangram qui s'appelle « Les Histrioniques ». C'est un spectacle de théâtre aussi, et par contre, cette fois, il traite des violences faites aux femmes. C'est en lien, alors c'est pas tout à fait la même date, mais c'est très peu de temps après la journée d'aujourd'hui, comme vous a dit Dominique au début de l'émission, journée internationale et mondiale pour l'arrêt des violences faites aux femmes, effectivement. Donc ce sera le jeudi 4 décembre au théâtre. À partir de 19h, le spectacle est à 20h. Nous, on y sera pour le stand à partir de 19h. Le spectacle s'appelle « Les histrioniques ». C'est important. Donc, si vous avez encore des possibilités pour y assister et prendre vos places, allez sur le site du Tangram. Et enfin, dernier partenariat, toujours avec le Tangram, le mardi 9 et 10 décembre, donc c'est vraiment très chargé, un spectacle qui s'appelle « Summertime », mais qui, là, est consacré à la thématique de nos droits face aux nouvelles technologies. On vous en a parlé il n'y a pas longtemps par rapport à TikTok et autres sites, effectivement. On vous a déjà parlé aussi des atteintes aux droits humains dues à Facebook. Mais là, c'est la thématique du spectacle, les 9 et 10 décembre, donc avec le Tangram à nouveau. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. De toute façon, vous pouvez retrouver dès demain le podcast de notre émission de ce soir sur le site de Principe Actif, donc n'hésitez pas à le réécouter. On va se quitter, puisqu'on va laisser l'antenne au laboratoire, effectivement, et on vous rappelle simplement notre adresse mail si vous voulez nous contacter, evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Voilà. On souhaite le bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Et on se retrouve donc
en décembre.
Ça va me revenir, le mardi 16 décembre. Voilà. À bientôt. Thank you.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.